Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Collot, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Pour trouver des boissons de qualité artisanale et traditionnelle, rendez-vous sur demichelot.com. Rappel nécessaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour les amis, un plaisir de vous retrouver pour le 12e podcast, je crois que c'est mon 12e, donc ça fait 3 mois officiellement que j'arrive à tenir le rythme de un podcast par semaine. Alors visiblement, c'est le truc le plus dur à faire, c'est d'être régulier. Et au bout d'un moment, ça finit par payer parce que ça s'instaure comme un rendez-vous. Alors j'espère que pour certains d'entre vous, ça s'instaure comme un rendez-vous. Tout ce que je sais, c'est que chaque semaine, vous êtes un petit peu plus nombreux à écouter puisque le podcast de la semaine dernière, au moment où j'enregistre, a toujours plus de vues que... En gros, je mesure comme ça, j'ai les stats globales, mais je regarde le nombre de vues du podcast de la semaine dernière au moment où j'enregistre le nouveau. Ça me donne une indication, donc voilà, vous êtes chaque semaine plusieurs centaines et voire sur certains épisodes plusieurs milliers à écouter ce podcast, et ça me fait vraiment très plaisir parce que c'est engageant, quoi. Vous passez du temps, 45 minutes toutes les semaines, et j'espère que c'est suffisamment intéressant pour que vous ayez envie d'écouter les nouveaux épisodes chaque nouvelle semaine. Bref, aujourd'hui, pas trop d'actualité à part le fait qu'on va sortir les maquisards pour les fêtes des pères d'ici quelques jours. Donc voilà, je les ai rabâchés et fait la description dans les épisodes précédents. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, allez écouter les épisodes précédents, peut-être podcast à partir du 7-8, un truc comme ça. L'événement sur la barge est complet. Voilà, vous avez été très réactif. En moins d'une semaine, vous avez pris les places. Donc ça fait plaisir. J'ai hâte de vous voir pour ceux qui ont pris leur place. Et au niveau des actus, c'est un petit peu tout. Hein. Je travaille en coulisses sur mes différentes boîtes pour continuer d'avancer. Mais il n'y a pas forcément quelque chose de très intéressant à vous partager pour l'instant. Si, peut-être que j'attends vraiment avant de remettre la rubrique spiritueux que je conseille, puisque je suis en train de négocier un truc avec un gros distributeur du marché qui a beaucoup de très bons alcools en son catalogue. Et ce que j'aimerais faire comme mécanique, ce serait de repérer dans leur catalogue, je pense, trois spiritueux par semaine, trois spiritueux ou apéritifs français dont j'aimerais vous parler. Et en gros, leur acheter en tant qu'avec des prix cavistes, quoi. Et du coup, les mettre en vente ensuite sur mon site pour que vous puissiez les retrouver facilement pour ceux que ça intéressait et qui veulent aller les découvrir. Donc sur mon site demichelot.com. Voilà, je bosse là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas vraiment d'actualité. Donc je vous tiendrai au courant si jamais ça s'accélère. Je voulais parler du coup de trois trucs cette semaine. Alors toutes les semaines, je dois vous parler du sujet de la baisse de la consommation d'alcool, puisque je suis allé chercher plein de chiffres et tout, mais comme il se passe des nouveaux trucs chaque semaine, en fait, je repousse à chaque fois. Mais bon, comme j'ai tout noté et que c'est pas un truc d'actualité, je peux en parler quand j'ai envie, quand j'aurai un trou et que je sais pas trop de quoi parler. Je sais pas trop de quoi vous raconter. Cette semaine, j'aimerais vous parler. Alors, j'ai montré sur Instagram hier, quand j'enregistre ce podcast, mais vous êtes jeudi, donc avant-hier, j'ai goûté pour la première fois de ma vie, et peut-être l'unique fois de ma vie, des vins du domaine de la Romanée Conti. Donc, domaine de la Romanée Conti qui sont les vins, du coup, les plus recherchés et pour beaucoup d'entre eux, les plus chers du monde, les plus rares. Je crois qu'aux enchères, c'est un Romanée Conti 1945 qui est encore aujourd'hui la bouteille de vin la plus chère vendue aux enchères de tous les temps. Et en gros, pour le milieu du vin, c'est un domaine qui est légendaire, quoi. C'est vraiment le Graal, quoi. Quand tu as fini le jeu du vin, c'est parce que tu as bu, bon, déjà plein de trucs bons avant, mais tu as bu de la Romanée Conti. Et donc hier, je me suis retrouvé dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Petrus. Très bon au demeurant et des équipes très sympas, donc je vous le recommande. Ils ont un menu accessible et tout. Vraiment un très bel établissement, très joli en plus, on y mange très bien. Donc restaurant Petrus comme le vin, dans le 17e. Et ils avaient un client privé qui avait ramené, je sais pas, 7-8 bouteilles, un truc comme ça, dont plusieurs Romanée Conti, des Echezzo, je sais plus comment on dit, 2005 et 2018, un assemblage de différentes parcelles, dont Echezzo et Romanée Conti, et je ne sais plus laquelle était la troisième. En tout cas, c'est une bouteille qui est assez rare et qu'on peut même pas retrouver au domaine, je crois. Et après, il y avait deux blancs et du coup, ce Romanée Conti Lattache de 1975. Donc maintenant, ça fait qu'il a 55 ans. Donc, je vous cache pas que c'est un petit peu vieux. Alors, attendez, je cherche voir si j'ai. Voilà. C'était, je me souvenais de la parcelle, mais j'avais pas envie de vous dire une connerie. Donc c'était un assemblage Romanée Conti, Richebourg. Voilà, c'est la troisième parcelle que je cherchais, c'était Richebourg. Enfin bref, en gros, des vins très rares, très chers, qui vont, je crois, la moins chère, ça devait être le 1975, puisque le vin, c'est pas comme les spiritueux, ça. Il y a un maximum, quoi. Après certaines années, il perd en qualité. Et donc, souvent, aux enchères, bah, il y a de la décote parce qu'on sait très bien que déjà, il y a un plus grand pourcentage de chances que le vin soit passé ou bouchonné. Et donc, forcément, il sera moins agréable, hein, à la dégustation. Donc, il se vendra moins cher. Mais globalement, ça allait de 1200 à 7 ou 8 000 balles la bouteille, un truc comme ça. Il y en avait. Une petite dizaine, donc je vous laisse imaginer la taille de la déguste. Et en fait, dans la table privée qui avait ramené toutes ces bouteilles, il y avait plusieurs personnes qui buvaient pas d'alcool. Donc le sommelier a réussi à avoir, pour pouvoir goûter un petit fond de chaque bouteille. Et je l'en remercie, c'est comme il me connaissait, m'a gentiment fait goûter 1 ou 2 centilitres de chaque bouteille pour que je puisse découvrir. Voilà, ce qui est une chance unique, hein, de pouvoir goûter ce type de produit. De par leur rareté et leur prix. Et donc, je leur remercie infiniment, s'ils écoutent ce podcast, de m'avoir donné l'opportunité de goûter de telles choses. Maintenant, mon avis, puisque j'ai publié un réel hier où je vous promettais de vous donner mon avis. Alors, avant, je vous mette dans un contexte qui est que. Moi, je bois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que j'ai donné cette image sur les réseaux sociaux, peut-être même un peu malgré moi, mais à cause de l'effet loupe des réseaux sociaux, on me voit boire beaucoup de vin dans des vidéos, enfin, on voit beaucoup de vin dans des vidéos. Moi, je bois très très peu de vin. Ce n'est pas du tout mon alcool préféré, vraiment pas. Je trouve même que j'ai tendance à être un peu malade quand j'en bois, donc je vous avoue que je bois très peu de vin, et quand j'en bois. Je bois un petit peu toujours la même chose, hein, je ne vais pas me cacher, je bois beaucoup de Bourgogne, rouge-blanc, et Côte-du-Rhône septentrionale, pareil, rouge-blanc, donc des Condrieu, des Saint-Joseph, des trucs comme ça, quoi. Des côtes rôties. Enfin bref, je bois des vins dont les noms sont assez réputés, mais qui ne valent pas des milliers de cents, mais qui valent quand même souvent un bon billet. Et après, voilà, j'ai mes domaines un peu de prédilection. J'achète un peu toujours la même chose, j'avoue, mais comme ça, je suis sûr que c'est bon. Parce que moi, dans le vin, je trouve qu'on est souvent déçu. Alors, je vous préviens, les mecs qui adorent le vin ou qui sont sommeliers dans le vin, vous allez avoir envie de me fracasser, mais j'estime que si vous appréciez ces podcasts ou mon compte, c'est parce que vous appréciez mon honnêteté et mon authenticité. Donc, je vais être très honnête, je vais vous dire ce que je pense. Le vin, je trouve. Déjà, il y a une forte décorrélation entre le goût qu'il a et son prix. Il y a énormément de très très bons vins à. Bon, peut-être, allez, pour aller dans les très très bons vins à. En gros, 30, entre 30 et 60 balles, si vous voulez vous trouver. Mais pléthore de vins qui sont vraiment très très bons et vous allez trouver beaucoup de plaisir, beaucoup de finesse, de profondeur dans ces vins-là. Vous allez vraiment passer un bon moment, faire de très jolis accords, avoir des palettes aromatiques très variées. Je trouve que quand on commence à aller sur des vins qui sont très très chers, en fait vous payez le nom, vraiment vous payez à fond le nom. Après ça, bah, c'est comme dans toutes les marques, hein. Et surtout vous payez un petit peu la hype la branlette intellectuelle, pour être trivial, qui s'est faite autour. Il y a des domaines, je pense, qui ne sont pas du tout exceptionnels, voire qui sont OK, mais comme c'est mal vu dans le sérail et que personne ne va parler avec franchise de dire, ouais, bah, ce vin-là, il est bon, mais il y a des vins à 30 balles, 40 balles qui font l'affaire, je vois pas pourquoi ça vaut 600 balles. Et bah, vous allez être un petit peu en mode, ah ouais, mais les autres, ils vont dire, mais par pression sociale, hein, parce qu'il faut pas être le mec qui dit que c'est de la merde. Il va dire, ah ouais, mais toi, t'y connais rien, blablabla. Donc tout le monde est là à dire, oui, je sens les notes, le mûr, le cassis, une profondeur, mais ce vigneron a un talent extraordinaire. Il te baise, il te baise. Il est en train de mettre 400 balles juste parce que, en fait. Mais je pense qu'en fait, il y a des mecs qui achètent, et du coup, comme ça vaut 400 balles, il y a plein de gens qui se disent, eh, mais c'est vachement cher, donc ça doit être vachement bon. Et ils continuent d'acheter, puis ils font de la spéculation, etc. Je me souviens plus le nom de cet effet-là, mais c'est un Américain, je crois, qui a mis ça. Enfin bref, j'en sais rien, mais ça a un nom, cet effet. Quand il y a un produit qui est OK et que vous n'arrivez pas à le vendre, et ben, si vous le mettez beaucoup, beaucoup plus cher, et ben, il y a un petit peu l'effet de, ah, c'est rare. Ça doit être très bon parce que c'est très cher. Et du coup, vous le vendez mieux, paradoxalement. Et ben, je pense qu'il y a beaucoup de vins, c'est ça. Voilà. J'ai bu, par exemple, des moutons Rothschild, des vins moutons Rothschild, qui est une appellation, enfin, qui a un nom assez recherché, très connoté, des bouteilles qui valent très cher. J'en ai bu deux. Bah, deux fois. Honnêtement, vous allez me taper dessus, mais c'est pas grave. Deux fois. Si c'est moi qui avais payé, j'aurais eu un seum intergalactique. Intergalactique. Je vous le dis. Je sais plus, je crois qu'il y avait un clip. 1500 ou 2000 balles, un truc comme ça. Jamais, mais je claque mes 50 balles à tout casser. Et vous pouvez me dire, ouais, t'as pas ressenti la profondeur et tout. Et moi, j'ai bu des milliers de spiritueux différents, des spiritueux très rares, très chers. J'ai bu le spiritueux, le whisky le plus vieux du monde. Et je trouvais que dans le monde des spiritueux, alors c'est pas forcément différent non plus, mais bref, je parlerai des spiritueux après. Donc j'ai quand même bu des trucs qui sont assez exceptionnels, différents et dans différents domaines. Donc, je pense que je sais à petit peu près de quoi je parle, même si j'ai moins l'habitude de boire des vins exceptionnels, j'en ai quand même bu quelques-uns et de toute façon j'ai bu plein de trucs différents, donc j'ai des échelles de comparaison. Bah, tu me faisais acheter les deux moutons Rothschild, putain, tu m'avais plus comme client. Ou du moins, un mouton Rothschild m'a plu comme client, parce que le restaurateur ou le caviste, peu importe, c'est moi qui ai choisi. J'ai bu Château Yquem aussi, donc un vin liquoreux. Mais il y a la même chose à 6 fois moins cher, en fait. Mais la même chose, voire meilleure, mais la même chose. Tu te fais niquer. Et je pense, après, j'ai plus forcément les noms, parce que je note pas, mais j'ai bu plein de trucs très chers. Voilà. Et non, moi j'ai toujours trouvé plus de kiff sur des vins. Alors des très bons vins, j'aime bien des Chambolles, les Gevrey-Chambertin, les Meursault. Bâtard Montrachet, c'est très cher, mais souvent je trouve que c'est très bon. Donc voilà. Là, je pourrais cramer un petit peu de pognon. J'ai bu un Bâtard Montrachet à 900 balles. Moi, encore une fois, c'est pas moi qui l'avais payé, le pic assiette. 900 balles, honnêtement, je suis pas sûr que je l'aurais acheté. Mais c'était tellement extraordinaire que là, je me suis dit, bon, ok, là c'est extraordinaire, là il s'est passé un truc de dingue, pourquoi pas? Et bah du coup, pour revenir au Romanée Conti, alors, le 1975, moi j'ai pas vraiment apprécié, parce que 55 ans sur un Bourgogne, il y avait de la mâche, il y avait de la matière, quoi. De toute façon, vous voyez dans la vidéo, il y a une couleur bizarre et tout. Je vais pas faire une note de dégustation parce que j'ai pas dégusté dans un contexte où moi j'aime bien déguster habituellement. Tu es dans un restaurant, il y a des odeurs, j'avais déjà mangé un truc avant, blablabla. Donc forcément, je pourrais pas donner la dégustation la plus précise et honnête qui soit. Soit j'ai pas le palais pour apprécier ce genre de truc, soit en fait tu payes un prix qui est délirant et il y a surtout, enfin au-delà du prix parce que la rareté c'est l'offre et la demande, voilà, je conteste pas. S'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là, et visiblement il y a des gens qui sont prêts puisque à chaque fois ils vendent tout et c'est sous allocation. Donc oublions le prix, je parle pas du prix. Juste moi je considère que c'est un prix beaucoup trop élevé que même si j'avais les moyens je ne paierais pas. Mais c'est surtout la hype, quoi. Tu parles à n'importe quel grand amateur de vin, à très grand sommelier et tout, ils vont être en transe devant ce genre de bouteille. Ce que je comprends, parce que c'est un petit peu le Graal de ton métier, c'est la bouteille la plus rare, la plus chère, tu as forcément envie de goûter. Personnellement, moi, Johan, je le dis ici devant vous, ça ne me met pas en transe. Quand tu claques entre 2 et, je sais pas, 7-8 000 balles d'une bouteille, au moment où je bois une gorgée, j'ai envie que mon cerveau, il se déconnecte. J'ai envie que ça fasse l'effet d'une drogue dure. Que tu te dises... Non, mais c'est pour caricaturer, bien sûr. Hein. Mais je vais me dire, OK, là, j'ai pris une claque derrière la nuque. Ce que je viens de goûter, ce que mes papilles viennent de toucher, que ce soit la texture, au goût... À l'émotion que ça te procure, c'est quelque chose que tu viens de toucher l'essieu, quoi. Tu ne reconnaîtras, tu n'auras jamais cette première fois de nouveau sur ton palais, quoi. Tu veux que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Effet que je n'ai pas eu. Alors, il y avait un Echoso 2018 et un 2005. Pareil, 2005, je pense que c'était un petit peu trop vieux pour un... Parce que c'est un Bourgogne, hein, Bourgogne, 2005, ça fait 20 ans, ouais, bon, encore ça va. Mais 2018, voilà, 7 ans, parfait. Et je trouvais qu'il était nettement au-dessus. Un nez qui, je l'avoue, avait une profondeur, une élégance qui évoluait, qui était extraordinaire. En bouche, c'était pareil, très très bon, je vais pas mentir, très très bon. Mais... Personnellement, je ne mettrais pas ces prix-là pour un tel produit. Parce que l'offre et la demande me semblent beaucoup trop décorrélées de la qualité d'un produit. Après, il y a différents marchés où l'offre et la demande font que des produits explosent. La différence, c'est que je trouve que dans l'alcool, on se retrouve parfois avec des bouteilles très chères. Mais moi, je juge qu'en dehors de toute spéculation, parce que des gens sont prêts à payer très cher, puisque derrière, ils pourront revendre encore plus cher. Alors, dans la Romanée Conti, ce n'est pas forcément le cas, parce que les bouteilles sont numérotées. Et si on s'aperçoit que... En fait, les bouteilles sont numérotées, et quand on vous donne une allocation, c'est-à-dire qu'on vous donne l'autorisation d'acheter des bouteilles, on sait exactement qui a quel numéro. Ce qui fait que si au marché noir, ou aux enchères, ou quoi que ce soit, on retrouve votre bouteille, on voit le numéro, et on sait exactement qui l'a mis en vente. Et du coup, cette personne perdra ses allocations et n'aura plus le droit d'acheter des bouteilles de la Romanée Conti. C'est un système qui est très ingénieux pour éviter qu'il y ait une spéculation débordante autour du domaine. Malgré tout, les quilles sont quand même à des prix assez élevés. Mais, merde, je sais plus ce que je disais. Bref, je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité et la chance inouï, et j'en remercie encore le restaurant et le sommelier de m'avoir fait goûter ce genre de vin, qui sont le Graal, hein, ce que tout le amateur de vin ou même de les sommeliers ou amateurs de bonnes choses rêve de goûter. Il y en a un d'entre eux qui était vraiment très très bon, très très bon, le 2018. Mais ça m'a confirmé plusieurs points qui sont, un, je ne mettrai jamais ces prix-là dans ce genre de bouteille de vin. Deux, ça me conforte dans mon idée qu'il y a énormément de vins et de très bons vignerons qui ne sont pas sous alloc, en plus, autour des 30 à... Allez, même 100 balles, si vous voulez craquer, même 100 balles, il y a tellement de bouteilles qui sont en dessous de 100 balles, mais entre 30 et 80 € disons la bouteille... qui sont extraordinaires, extraordinaires, avec une régularité incroyable. Et trois, wine is better distilled. Le vin, c'est meilleur distillé. Putain, le monde des spiritueux, mais une vitesse au monde du vin, mais... Et le vin n'arrive pas à l'orteil des spiritueux, en fait. Et c'est même pas pour prêcher pour ma paroisse, mais... Mon coup de cœur du Whisky Live l'année dernière, c'était un Valintersigné, donc un cognac, 50 ans, embouteillé par un embouteilleur indépendant. Je l'ai bu. Je vous jure, j'avais envie de chialer. Je vous jure que j'avais envie de chialer tellement c'était extraordinaire. Extraordinaire. Tu me donnes 12 Romanée Conti, je les échange contre cette putain de bouteille de Valentersien 50 ans, j'avais envie de chialer tellement c'était bon. Je vous jure, je les échange sans aucun remords, en dehors de l'aspect financier. Mais le monde des spiritueux, le whisky, le cognac, le rhum, le rhum Savannah que j'ai goûté par le chef, je sais plus comment il s'appelait, un nom japonais. Je vais dire des trucs, ça va faire les japonais. Ouais, Johan, je sais plus, c'est chef Sato, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, Sato. Ouais, chef Sato. Du restaurant qui a une étoile Michelin, le restaurant Blanc à Paris. Il a fait un embouteillage privé de Savannah. Putain de sa race, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Mais vos papilles, mais tu mets ça dessus, la papille, elle s'en remet pas en fait. Elle prend 8 jours d'ITT, elle travaille plus derrière, plus rien n'a de goût en fait. Et c'est un goût naturel en plus, c'est dingue ce que peuvent créer des spiritueux, parce que la spiritueux, c'est quoi? Si tu distilles une Romanée Conti, c'est une concentration de ces arômes. Ce qui fait que c'est une supra-Romanée Conti. C'est extraordinaire. Ça me confirme que ma passion et mon amour pour les spiritueux est encore plus flamboyant et débordant qu'auparavant. À chaque fois que je goûte un vin et que je trouve que c'est un peu surcoté, voire carrément surcoté, je me dis, putain, mais les spiritueux, mais comment ça se fait que vous ne buviez pas ça, en fait? Pourquoi vous buvez pas de spiritueux? Enfin, vous ne dégustez pas de spiritueux. Pourquoi tout le monde n'a pas des bonnes bouteilles de spiritueux chez eux? Putain, on a, allez, maximum 80 ans à passer sur cette terre et vous passez à côté de telles prouesses gustatives. Je vous dis que un alcool m'a donné envie de chialer. Tellement il était bon. J'ai bu des whisky, mais je me dis, mais comment? Vous pouvez créer quelque chose d'aussi bon. C'est dingue! C'est dingue! Donc voilà, 3, ça renforce mon amour des spiritueux. Boire de la Romanée Conti me confirme que je préfère les alcools forts. Voilà. J'ai essayé d'être tempéré, mesuré. Je ne crache pas du tout sur le monde du vin. Attention. Mes goûts personnels, je bois très peu de vin. En plus, je me clash un petit peu, parce que je dis, je bois toujours les mêmes. C'est un peu un comportement de connard. Enfin, toujours les mêmes. J'en bois quand même 100, 150 différents entre les vignerons, les appellations et tout. Voilà, mais toujours la même zone, si on veut. Même si je ne suis pas fermé à dégustation d'autres endroits, je le fais très souvent, il n'y a pas de souci. Et 3, je préfère les spiritueux. Donc voilà, je peux cocher cette case dans les objectifs de ma vie. J'ai pu déguster de la Romanée Conti. J'en suis très très heureux d'avoir pu toucher ce Saint Graal du savoir-faire français depuis des siècles. Des siècles et des siècles. Et il faut y aller, il faut visiter les vignes là, dans ce coin-là de la Bourgogne. C'est absolument sublime. Sublime. Et vous pourrez visiter plein de vignerons et tout, goûter chez eux. Comme ça, vous pouvez boire plein de domaines différents sous les mêmes appellations, vous faire vos petites préférences et vous acheter une caisse de 12. Et comme ça, vous faites une petite collection. Ça va vite, ça va vite. Alors, autre chose dont je voulais vous parler, donc ça, c'était mon retour sur la Romanée Conti et mon amour pour les spiritueux. Autre chose dont je voulais vous parler, ah oui, il faut savoir aussi que le vin. Moi, j'en bois pas beaucoup, mais je suis pas le seul, contrairement à ce que plein peuvent faire croire. Depuis, on en parlera dans le podcast sur pourquoi il y a de la baisse de consommation d'alcool. En fait, toute la baisse de consommation d'alcool est encaissée par le monde du vin. Les spiritueux, ça fait 80 ans que c'est stable, la consommation. La bière, ça fait 80 ans que c'est stable, voire même ça augmente. C'est le seul secteur, la part d'alcool qui augmente. Le seul secteur du monde de l'alcool qui augmente. Et le vin. C'est divisé par 7 en 80 ans. C'est le vin qui encaisse toute la baisse. Donc, soit il y a une remise en question à faire. Je pense que c'est aussi surtout un gros changement des habitudes. Et c'est les vins, en fait, bas de gamme qui encaissent beaucoup de la perte. On va pas se mentir. Parce que les gens, maintenant, achètent quand même mieux, boivent mieux, achètent plus cher qu'avant. Mais par exemple, moi, ça m'arrive encore, quand je fais mes tournées commerciales, ce que je mange au restaurant tous les midis. pour voir mes clients, vendre mes alcools, etc. Puisque je fais quand même commercial de terrain tous les jours. Et il s'avère que à partir d'aujourd'hui, là ou hier, du moment où vous m'écoutez en tout cas, je rajoute aussi à mon catalogue une brasserie de bière de la région parisienne qui est excellente, que j'adore. Et j'ai eu plusieurs demandes sur de la bière, donc je leur ai proposé de vendre pour eux. Et ça m'arrive très souvent, et bistrot, soit je veux pas boire d'alcool bah parce que j'y vais tous les jours, donc j'ai pas envie de me démolir, et puis même j'ai envie de bosser, voilà. Enfin, bref, j'ai pas envie de boire d'alcool tout le temps. Donc je bois de l'eau pétillante pour quand même donner de l'argent aux restaurateurs et qu'ils puissent faire une petite marge, voilà, pour participer, pas juste boire une carafe d'eau. Ou sinon, souvent, je veux boire une 25 de bière. Et il y a beaucoup d'endroits, honnêtement, où il y a soit pas de bière, soit pas des bières de ouf, parce que c'est un peu un secteur négligé. Alors que c'est la part du monde des alcools qui est en expansion, qui est vraiment en augmentation. Les gens, la bière remplace le vin, clairement. Donc ça vaut le coup pour moi que beaucoup d'établissements commencent à travailler leur gamme de bières et des jolies bières. Donc si vous êtes un restaurateur, surtout en région parisienne, et que vous m'écoutez, maintenant moi je vends de très jolies bières. Donc contactez-moi, je vais vous expliquer, vous donner un petit peu comment ça se passe avec la brasserie pour laquelle je vends maintenant. Et je passerai chez vous sans plaisir, enfin sans plaisir. Je me reprends, je passerai chez vous avec plaisir, sans problème, et je pourrais vous envoyer leur bière avec grand, grand plaisir. Voilà, c'est un petit peu tout pour cette partie sur ma dégustation de Romanée Conti et mon appréciation de l'évolution du vin dans les restaurants. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans le podcast dédié à l'évolution de la consommation d'alcool. Soyez-en sûrs. Je voulais parler aussi de. J'ai fait une vidéo là, sur Instagram au sujet des poules. Alors peut-être que certains n'ont pas compris. Voilà, ça m'intéresse en fait, dans ma quête de réenracinement personnel, de prendre un sujet et de creuser. Et moi, dans l'alcool, vous savez, quand vous buvez du whisky, c'est impossible de dire j'aime ou j'aime pas le whisky. Parce qu'il y a. Le whisky, c'est un alcool qui est infini. Il y a une infinité de goûts de whisky. Vous ne pouvez pas faire tous les whiskies possibles du monde. C'est pas possible. Il y a tellement de variations possibles et imaginables que le whisky est un alcool infini. Et je me suis dit, bah, moi, ce qui me passionne dans mon boulot, c'est qu'à chaque nouvelle bouteille, je découvre de nouvelles choses. Et je me suis dit, mais dans la bouffe, ça doit être pareil. Par exemple, les fromages, moi, à chaque fois, toutes les semaines, j'achète entre un et trois fromages et j'essaye toujours d'acheter des fromages que je connais pas pour découvrir. Et ensuite, je me note ceux que j'ai préférés. Et comme ça, quand je me balade à la campagne, dans les montagnes, tout simplement dans les zones où ils fabriquent du fromage, bah, je sais déjà un petit peu ce qui est fabriqué. J'achète à différents fermiers ou fromagers avec des trucs qui sont faits beaucoup plus localement, qui sont peut-être meilleurs, plus rustiques, au lait cru, etc., etc. Dans l'alcool, je fais pareil. Et je me suis dit, mais par exemple, la viande. Alors, j'ai parlé de supermarché, mais parce que je sais que tout le monde va au supermarché. Mais même si vous allez au marché ou au boucher, on connaît la volaille de Bresse, qui est la plus connue et qui est souvent mise en avant. Mais il y a des centaines de races différentes de poules. Donc, je suppose que toutes, en fonction même de leur type d'élevage, la zone où elles ont été élevées, si elles ont été élevées plus ou moins en altitude, plus ou moins en bord de mer, en sous de quel climat, qu'est-ce qu'on leur a donné à manger? Est-ce qu'on leur a donné à manger de la nourriture bah, qu'on fait que le paysan cultive lui-même, par exemple, ou est-ce qu'il l'a acheté à un grossiste en bouffe animale? Quelle race de poule, etc., etc. Beaucoup de variations qui fait que chaque poulet que vous mangez, techniquement, aura un goût différent. Et on perd ça. On a encore sur les bovins, sur les vaches, cet effet race, avec la limousine, la normande, la wagyu, là, qui est très populaire en ce moment, la salaire, etc., etc. Pardon, je tapais sur le micro. Enfin bref, vous en avez plein, quoi. Même on bouffe beaucoup de races allemandes, irlandaises, je prends comme exemple la Galice, je crois, c'est. Enfin bref, il y a vraiment cet effet race dans les restaurants où c'est écrit, voilà, quelle côte de bœuf souvent vous pouvez manger. Et sur les poulets, on l'a pas, mais sur beaucoup de viande, en fait, on l'a pas. Et même sur le bœuf, t'aimerais savoir comment il a été nourri, quel est l'impact et tout. Et il y a un vrai travail d'éducation, c'est limite un travail de sommellerie de la bouffe à faire. Et on standardise nos goûts, et on sait plus ce qu'on mange, en fait. On mange tous la même chose, et cette même chose qu'on mange, eh ben, on sait même plus ce que c'est. Et je suis le premier, c'est pas une leçon hein, que je donne, parce que je suis le premier coupable de ça. Et moi, en tant que geek des alcools, j'aimerais bien devenir un petit peu plus geek de la bouffe, savoir vraiment ce que je mange, même dans les légumes, même les fruits. Il y a des centaines de variétés de tomates différentes, on bouffe tous la même. Sur les, je sais pas, rien que vous prenez le persil. Le persil, il y a combien de variétés de persil différentes? Et en fait, vous vous rendez compte que chaque plat peut avoir une infinité de goûts en fonction de. Je sais pas, vous faites une salade avec du poulet et des légumes, et juste vous changez la variété de chaque légume et la race du poulet. Vous pouvez faire la même salade à l'infini, elle aura jamais le même goût. Il y a une infinité de vinaigre, une infinité de moutarde, enfin, j'en sais rien. Voilà. Et cette émulsion intellectuelle de savoir que tout ça existe m'habite. Me transporte et j'ai envie de partir à la conquête de ces goûts différents. Malgré tout, je pense que la plupart des gens s'en tapent. Ça s'adresse quand même à une petite niche. Les gens, ils veulent juste bouffer, voilà. Ils veulent s'alimenter, quoi. La plupart des gens veulent s'alimenter et ils méprisent leurs papilles complètement. Fais le voir, hein, franchement, quand tu fais les courses, si tu passes en grande surface, amusez-vous des fois à regarder le caddie des autres. Et c'est pas une question de prix, hein, parce que les trucs ultra transformés industriels, ça coûte super cher. Vous prenez les matières brutes et que vous les cuisinez vous-même, ça coûte beaucoup moins cher. C'est un ami qui m'avait dit, regarde ce qu'achètent les gens en grande surface, parce que même en grande surface, tu peux acheter des trucs propres, quoi. La matière brute, bon bah voilà, c'est pas, t'as pas acheté au maraîcher du coin, machin. Mais bref, il faut pas, je juge pas, moi. Tout le monde va en grande surface, faut arrêter, hein, sinon ça marcherait pas. Et putain, la quantité de merde qui est achetée, c'est délirant. Ça fait flipper. Hein. Vraiment, la quantité de merde que des gens se foutent dans le corps, c'est flippant. C'est flippant. Le mec devant moi aux courses hier, c'est flippant ce qu'il va se mettre dans la gueule. Hein. La vache, c'est. Enfin bref. Je juge pas, je dis juste que la plupart des gens n'y trouvent pas forcément un intérêt à la diversité de ce qu'ils peuvent manger et à l'existence même de cette diversité. Et donc pour moi, il y a un grand enjeu de traçabilité et d'éducation sur tout ce qu'on mange, mais qu'il faut faire personnellement. Et il faudrait trouver un mécanisme avec les paysans pour pouvoir faire ça. Parce que comme vous pouvez visiter des vignerons ou de visiter des distilleries, ce serait cool de pouvoir voir des fermes. Ou après, il n'y a peut-être pas le temps, pas les moyens, j'en sais rien. Si ça ne se fait pas, c'est pour une bonne raison. Hein. Mais je me dis, bah ok, j'ai acheté un poulet de telle race la semaine dernière. Comment je pourrais avoir chez moi un poulet d'une autre race cette semaine et le goûter? Et savoir qui l'a élevé, comment il a été élevé, qu'est-ce qu'il a mangé, j'aimerais bien le savoir. Et là, en ce moment, je lis un livre, Le sens du bétail de Ulysse Thévenon. C'est terrifiant, quoi. Même les éleveurs, quand ils achètent de la bouffe il y a des usines, en fait, dont leur métier, c'est fabriquer des aliments pour animaux. Mais en fait, dans la plupart des témoignages, même les éleveurs, les agriculteurs, sur l'étiquette de ce qu'ils donnent aux animaux, il y a souvent des mensonges, des contre-indications, des éléments qui sont cachés et tout. Même eux, en fait, ne savent même pas des fois ce qu'ils donnent à bouffer leurs animaux. Donc moi, j'aimerais bien savoir répertorier, est-ce que quelqu'un a fait ce travail? Ok, telle ferme, il donne ses propres céréales à ses poules ou à ses bovins. Ok, donc on sait comment ils sont nourris. Il a différentes variétés, ok. J'aimerais goûter ces différentes variétés. J'aimerais qu'elles soient livrées chez moi, quitte à payer plus cher. Je m'en fous. Moi, j'ai envie de goûter des bonnes choses. Comment c'est possible? Est-ce que je peux les acheter? Où trouver ces fermes? Comment leur acheter? Comment être sûr d'avoir des œufs de très haute qualité? Être sûr que les poules qui les ont faits sont bien nourries, pas nourries avec la merde de ces industriels dont on parle dans le livre là? Enfin, c'est pas forcément tout le temps de la merde. Hein. Faut lire le livre, mais globalement, elles ont été nourries avec des aliments dont on connaît la provenance et on sait qu'il y a une certaine régularité de qualité. Enfin voilà. Là, vous vous rendez compte que, en fait, dans votre assiette, il peut y avoir une infinité de goûts différents. Et c'est là que vous verrez toute l'expression d'un terroir. Et après, bah, moi, je suis pas, j'habite dans un appartement, je ne peux pas me faire un potager, je ne peux pas élever des poules, je ne peux pas élever des bovins, je n'ai pas forcément le temps ni l'envie. Mais je serais prêt à payer plus cher pour manger des bonnes choses. Alors, moi, je visite beaucoup de vignerons et de distilleries. J'ai pas forcément tout le temps la capacité, le temps de visiter des fermes ou des agriculteurs. Eux n'ont pas forcément le temps de faire visiter ou d'expliquer, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais je me demande pourquoi il n'existe pas une boîte qui a fait ces visites-là, qui a créé une sorte de label, en dehors de tous les labels qu'on fait par les industriels qu'on connaît très bien. C'est eux-mêmes qui certifient un truc. Ouais, ça c'est de la qualité, du coup ça a tel label. Ils se l'auto-approprient eux-mêmes. Non, quelqu'un qui a fait voilà, une boîte et ensuite une facilité d'achat. Donc je sais pas, je sais qu'il existe des livraisons en frais pendant 24 heures, c'est fait par camion réfrigéré. Je sais qu'il existe des espèces de kiosques dans les centres-villes. Moi, il y en a un pas loin de chez moi où vous avez des produits de la ferme. Le problème, c'est que je sais pas de quelle ferme et comment ces trucs ont été élevé ou alimenté. Je me demande, voilà, en gros, quelqu'un qui a créé une boîte où tu peux manger des choses variées, brutes, avec des goûts différents, qui ont été faits proprement, parce que ça respecte telle et telle charte, ou au pire, même si ça respecte pas telle et telle charte, on s'en fout, mais chaque chose que tu commandes sur le site ou que tu reçois, ou bref, peu importe où tu le trouves, même que tu peux aller chercher à la ferme, il y a un petit descriptif, voilà, ce poulet a été élevé avec le maïs de la ferme, ou un assemblage de céréales de la ferme, nanana, l'agriculteur c'est lui, voilà, comme dans les spiritueux, les vins, quoi. T'as le domaine, t'as la marque, tu connais le vigneron, tu sais comment il vinifie, tu sais s'il est en bio, en nature, en conventionnel, etc., etc. Et je me dis, est-ce que c'est si impossible de faire ça pour la bouffe? Et on se retrouve avec des poulets jaunes là. En fait, le poulet jaune, ça n'existe pas. Il leur donne des colorants à bouffer. Du coup, les poulets, ils chient, ils ont la chiasse tout le temps, ils boivent 8 kilos d'eau. Ça pénalise les agriculteurs qui payent des quantités astronomiques de flotte pour nourrir des poulets pour qu'ils soient jaunes parce qu'ils bouffent de la merde colorée, juste parce que les gens préfèrent acheter du poulet jaune. Alors que ça n'existe pas en fait. Vous bouffez du poulet qui bouffe du colorant pour qu'il soit jaune. Et j'en ai à foutre de la couleur du poulet. Moi, je veux bouffer un poulet qui est bon. Je veux bouffer un poulet qui a été heureux. Il a vécu une vie de poulet extraordinaire. Il s'est baladé. Il a fait, voilà, la poule a fait des gros œufs comme ça, bien, bien beaux là, bien colorés, bien stylés. Enfin, bien colorés, des beaux œufs quoi. Elle a été heureuse. Elle a vécu une vie cool. En fait, je pense que moi, qui aime beaucoup la viande, qui aime beaucoup les produits, enfin, j'aime tout en fait. Je suis le premier à vouloir que les animaux vivent heureux. Dès que tu vas dans une ferme, quand j'étais allé dans une ferme en Bourgogne, chez la ferme du vigneron Armand Heitz, qui a racheté une ferme et qui a salarié l'agriculteur maintenant, donc l'agriculteur peut partir en vacances, n'a plus de problème de fin de mois, etc. Bah, tu te balades dans sa ferme, et ça fait plaisir de voir les vaches en plein air, comme ça, elles ont l'air heureuses. Le taureau, tu peux lui mettre une petite claque sur le cul, il est heureux comme pas deux, le mec. Et voilà, il peut te dire, bah, c'est lui la semaine prochaine ou elle qui va passer à l'abattoir, et donc c'est elle qu'on va manger, et tu sais d'où ça vient, c'est elle, là, elle est devant toi. Voilà, elle a été nourrie là, avec les trucs qui sont là. Et là, tu sais ce que tu manges, et ça a du sens. Et après, t'aimes, t'aimes pas, tu veux goûter autre chose, etc. T'as vu la bête qui était heureuse, et franchement, voir des animaux bien traités, et bah, ça fait plaisir, parce que je pense que personne n'est indifférent à cette souffrance, ou si vous êtes indifférent à cette souffrance, c'est quand même que, y a un petit souci. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir vegan, mais il y a beaucoup d'animaux, on l'apprend aussi dans son livre, qui souffrent, ou que les agriculteurs font souffrir malgré eux, et ça les traumatise, parce que, ils sont enfermés dans un système qui leur impose des cadences, où ils courent après des crédits, etc. Et ils sont enfermés dans une boucle infernale qui est un enfer, et qui détruit des animaux, mais qui détruit aussi l'agriculteur psychologiquement, parce que voir des animaux souffrir, bah, quand on est empathique, ça fait très mal, mais surtout quand on est quand on est la cause et on est à l'origine de cette souffrance, ça détruit. Ça te détruit psychologiquement. Et quand on lit ce livre, il y a des histoires qui sont tragiques, qui font vraiment mal au cœur. Des gens qui ont été enfermés malgré eux dans des boucles. Et voilà, je pense que une plus grande traçabilité, un accès direct aux consommateurs, ou du moins une facilité pour des produits de niche, hein, ça ne concernera jamais le grand public. Le grand public s'en tape. Il s'en tape complètement. Et vouloir éduquer, même quand on le fait à travers des vidéos, etc., et vouloir éduquer le grand public, ça ne marche pas. Les gens s'en contrefoutent de ce qu'ils se mettent dans la tronche. Ça, il faut bien le comprendre. La masse s'en contrefout de bouffer toujours la même chose, que tout soit uniformisé. Tout ce qu'ils veulent, c'est quand ils arrivent, il y a du poulet. S'il n'y a plus de poulet, ils gueulent. Moi, j'ai travaillé en grande surface. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y ait du coca. S'il n'y a plus de coca, c'est l'apocalypse. Vraiment, on avait des briefs, parce que la boutique, enfin le magasin où je travaillais, une très grande surface américaine qui s'implantait en France, ils étaient en bras de fer avec Coca. Donc pendant 2 semaines, on n'avait pas de Coca, pour un bras de fer autour des prix. On avait des briefs tous les jours pour nous dire qu'on n'avait pas de Coca et apprendre à faire de la médiation avec les gens. Parce que les gens, s'il n'y a pas de Coca, ils deviennent fous. C'est des malades mentaux, ils sont prêts à t'étriper. Donc dis-toi que là. Le terroir, savoir quel type de poulet on mange, etc. Mais ils s'en branlent complètement. Mais pour les gens comme nous, et je pense les gens comme vous qui écoutez ce podcast, pour nous, ça a un intérêt. On est prêt à payer plus cher pour goûter des choses différentes, des choses de qualité. Et bon Dieu, pourquoi ça n'existe pas? Est-ce que c'est pas rentable? Ce que je comprendrais du coup, est-ce que personne n'a trouvé un modèle fiable? Est-ce que c'est trop compliqué en logistique? Est-ce que les agriculteurs n'ont pas le temps, pas l'envie? Est-ce que c'est juste que c'est un modèle qui est pour l'instant pas adaptable sur des générations qui sont pas en, qui n'ont jamais été faites pour ça et qu'il faut attendre les renouvellements de générations? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si peut-être que moi je ne connais pas, donc la communication n'est pas assez à grande échelle. Si jamais je connais pas, n'hésitez pas à m'envoyer des choses sur Instagram @dosedefrance, tout attaché, dose de France. Mais moi j'aimerais beaucoup découvrir ce genre de choses, en faire la promotion et pouvoir payer honnêtement des agriculteurs qui travaillent bien et surtout moi satisfaire mes papilles. C'est vraiment ça aussi le but. Le fin gourmet, la personne qui a envie de découvrir, c'est le premier rémunérateur des agriculteurs et le premier amoureux des animaux. Je ne supporterais pas de voir un élevage intensif. Ça me ferait trop mal au cœur, il faut que je l'admette. Si à un moment j'achète des produits qui viennent d'élevage intensif où les animaux sont enfermés, je l'achète probablement des fois malgré moi, je veux savoir d'où ça vient, je veux arrêter d'acheter ça. Et je veux acheter, même plus cher, des produits où les animaux ont été bien traités, sont heureux, et du coup le produit final est de qualité, et bien rémunéré aussi la personne qui en est à l'origine. Alors dans les boucheries, je vais à la boucherie, on peut un peu mieux le savoir, et si on a le temps de discuter avec le boucher, on peut avoir toutes ces informations aussi, parfois sur certaines pièces et tout. Donc ça c'est agréable, donc faut aller chez le boucher, c'est sûr. Après je trouve que des fois sur les marchés, bah, tu sais pas trop, et puis s'il y a du monde, ils discutent pas avec toi, il n'y a pas toujours les infos. Donc voilà, moi ce qui me met mal à l'aise, c'est que tu sais pas trop ce que tu achètes. Parce que je me doute bien que tout ce que j'ai dit à plusieurs depuis 20 minutes, vous vous dites, mais t'as qu'à aller chez le boucher, au marché. Oui, mais des fois, je trouve que la traçabilité, pareil, elle n'est pas forcément dingue. Je suis désolé. La traçabilité n'est pas forcément dingue, tu sais pas trop. Voilà. Ou c'est peut-être moi qui suis con, mais quand tu achètes le maraîcher, bah. Tu sais, enfin, c'est sûr que tu as des choses beaucoup plus intéressantes. Pas se mentir. Mais pareil, tu as une uniformisation. Qui est là parce que c'est ce que les clients veulent et moi j'aimerais bien acheter direct à la source ou via des bouchers ou des maraîchers très spécialisés et savoir exactement ce que j'achète et pouvoir goûter des races, des variétés différentes et partir à la découverte de tous ces terroirs quoi. Voilà, je me suis répété une infinité de fois mais je pense que vous avez compris le message. Écoutez, ça fait 45 minutes. J'avais dit que je voulais vous parler de trois choses, mais entre-temps, j'ai oublié la troisième chose. Et que je réfléchisse vite fait. Je bois un petit coup d'eau, ça va peut-être me faire revenir à l'esprit. Eh bien, ce n'est pas revenu à mon esprit. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire.
Non, bah écoutez, je l'ai perdu. Peut-être ça. Vous allez voir, je vais couper le podcast, ça va me revenir directement, ce qui est très frustrant. J'ai aussi reçu le couteau d'un forgeron. Bah vous voyez, là par exemple, bon, c'est pas de la bouffe du coup, mais j'ai reçu le couteau d'un forgeron qui est sublime. C'est Graveron Forge sur Instagram. Allez le suivre. Et si jamais vous voulez acheter un couteau super stylé, n'hésitez pas. Graveron Forge. Il m'a fait un superbe couteau. Ah, là, vous voyez, c'est un artisan. C'est fait main. Vous savez où il est. Vous savez d'où ça vient. Vous savez qu'il l'a fabriqué avec ses mains. Vous avez l'expression de son savoir-faire sur plusieurs années. Et puis même visuellement, c'est magnifique. Là, je le tiens dans ma main. C'est pour ça que je m'écarte peut-être un peu du micro. C'est sublime. C'est sublime. Et ça serait bien d'avoir ce côté artisanal en permanence dans la bouffe et dans l'alcool. Tout simplement. Je sais que je prône peut-être un modèle qui est peut-être pas du tout viable. C'est pour ça que ça n'existe pas. Hein, ça m'étonnerait pas. Ou qui est tenu par des intérêts très grands. Mais voilà. Bref, je vais pas me répéter encore. Les amis. Préparez-vous à la sortie des maquisards là dans les prochains jours pour la fête des pères. Je rappelle, un cognac, un whisky, un armagnac, un calvados et un gin, 5 bouteilles en édition limitée maquisards single cask, donc un seul fût, qui sortent juste avant la fête des pères. Rappelle les gars, hein, la fête des pères c'est le 15 juin, pour pas oublier. Dans les prochains jours, la bouteille la moins chère. C'est le gin à 50 euros. Ensuite, l'armagnac sera à 60. Le calvados et le cognac seront à 85. Et le whisky sera à 105 euros. Voilà. On a essayé de vraiment contenir à fond les prix pour que vous puissiez découvrir des choses extraordinaires. Je vous rappelle à quel point les spiritueux, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment ma passion. Et sans fracasser votre portefeuille. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, les amis. Passez une très bonne fin de semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.